Elle maîtrise les mauvais réveils, étincelles de colère, les matières qui l'embrouillent. Alors que dans son corps, la patience me nuise et grossit la trouille. Mâchée, destinée courte et t'es pas. Les gens ne savent même plus qu'on peut descendre dans la rue, se défendre et donner de la voix. Je pense donc que je suis là. Faut-il que je te dise?
Les tout petits, moins de 3 ans de l'école Hormocha. Vous allez me dire ce que vous avez appris sur l'eau.
L'eau est transparente.
À quoi sert l'eau ?
Boire. Boire.
L'eau potable et pour la boire.
Avec les mains.
Je vais laver les mains.
Arroser.
Les plantes.
Laver les vêtements.
Classe de Patricia, en petite section à l'Hormocha.
On trouve l'eau dans la terre.
Dans le bain.
Dans la piscine.
Dans la mer.
Dans la mer.
Dans le tuyau.
Le de la pluie.
De la puce, c'est pour
laver les pinceaux.
Il faut pas la gâcher.
Il faut pas la gâcher.
On gâche pas l'eau.
Alors bonjour. Je suis Géraldine Thierry-Li. On a travaillé avec ma classe de petite section sur l'eau. Quelle est l'odeur de l'eau ?
C'est rien. Elle est inodore.
Inodore.
Pourquoi il ne faut pas laisser couler l'eau ?
Sinon, ça va gaspiller.
Pour les poissons.
Il ne faut pas quitter l'eau parce que c'est pour les animaux.
Elle est précieuse.
Nous sommes dans la classe de Fatia, en grande section à l'Hormocha.
J'ai fait ma douche rapide. Je suis le gardien de l'eau.
Au lieu de jeter l'eau, on peut l'utiliser.
En fait, quand il pleut, on peut prendre l'eau quand il pleut.
Dans la bassine, on a de l'eau.
On peut laver les balcons, on peut laver les jouets.
On peut nettoyer sa voiture,
arroser les plantes,
laver les chaussures.
S'il n'y avait pas la pluie, on ne pourra pas manger les légumes, les cerises, les pommes, les brocolis, les choux-fleurs.
Les sodas a meilleur goût que l'eau, mais l'eau, c'est bon pour la santé et que les sodas, non. Donc c'est pour ça que l'eau est plus importante que les sodas. Le seul super-héros qui existe, c'est Gouttelette. Spider-Man, tous les autres super-héros n'existent pas. Le seul super-héros, c'est Gouttelette. Gouttelette, elle nous fait vivre.
Sur la tête, boum, il se retape sur la tête, boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter
grande première mondiale. Le
poème du poète, c'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses. Pas besoin de comprendre.
Nous sommes les élèves de CPB
et de CE1C.
De l'école Joliot-Curie A.
Le Martin Pêcheur.
Un Martin Pêcheur qui fait de la trottinette avec son ami la chouette.
Ça n'hésite pas. Un Martin Pêcheur avec une bicyclette électrique sur un toit.
Ça n'existe pas. Un Martin Pêcheur qui pêche des couleurs.
Ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Badesi
Nahed.
Le rouge-gorge.
Un rouge-gorge qui fait du skateboard avec un autre skateboard sur la tête.
Ça n'existe pas. Un rouge-gorge avec des talons rouges à paillettes.
Ça n'existe pas.
Un rouge-gorge qui chante mal dans le parc des Cormailles.
Ça n'existe pas. Et pourquoi pas?
Lucie
et Iris.
Le perroquet. Un perroquet qui roule vite sur l'autoroute en chantant comme un fou. Ça n'existe pas. Un perroquet qui fait du ski dans les escaliers de l'école Joliot-Curie A. Ça n'existe pas. Un perroquet avec des boucles d'oreilles rouges et une robe jaune. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Yasmine?
Le faucon pèlerin. Un faucon pèlerin qui boit du thé au restaurant avec ses amis le colibri et les rouges-gorges.
Ça n'existe pas.
Un faucon pèlerin qui fait du ski en short avec son ami le guépard.
Ça n'existe pas.
Un faucon pèlerin qui dort dans les nuages avec son ami l'éléphant.
Ça n'existe pas. Et pourquoi pas?
Kevin.
Adèle.
La mésange.
Une mésange qui tire la langue à un chat dans la cour de récréation.
Ça n'existe pas.
Une mésange de 100 mètres avec une tête rouge et une queue noire.
Ça n'existe pas. Une mésange qui ne veut pas la liberté.
Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas, Kylian?
Lina.
Jusqu'à 20 avec les doigts de ses mains.
Ça n'existe pas.
Un corbeau qui fait une roulade sur les tapis de l'école.
Ça n'existe pas.
Un corbeau qui s'habille tout en noir pour un enterrement.
Ça n'existe pas.
Et pourquoi pas? Princesse Naïm.
Bonjour, nous nous appelons Akmal et Dina. Aujourd'hui, nous allons vous réciter le poème Carnaval de Karen Percier.
Carnaval.
Aujourd'hui, c'est le carnaval.
Tout est prêt pour notre bal.
Musique, danse et confetti.
Seront tous de la partie.
Tiens, qui vient faire la fête?
Cette fée bleue peut-être.
Ou ce Milou sans Tintin.
Qu'il lente et serpentin.
Blanche-Neige et Cendrillon.
En pleine conversation.
Attends patiemment
l'arrivée du prince charmant.
Aujourd'hui, c'est le carnaval.
En avant pour notre bal.
Arine Parcier.
sommes les élèves de la classe de CE1E de l'école Henri Barbus à Ivry-sur-Seine.
Cette année, nous travaillons sur le peintre Claude Monet.
En plus de vous raconter nos visites au musée et nos découvertes, on vous propose un jeu qui s'appelle « Écoute mon tableau ».
Le deuxième tableau que vous avez écouté est « Impression soleil levant ».
Il a été peint en 1872 par Claude Monet.
Le tableau est exposé au musée Marmottan Monet à Paris.
Sur le tableau, on observe la mer avec des petits bateaux. On voit le soleil orange se lever avec son reflet dans l'eau. On voit aussi des personnes sur une barque qui sont en train de pêcher. On ressent du calme et de l'air frais.
Jouer avec nous, il faut une feuille et de quoi mettre de la couleur. Écoutez attentivement et dessinez ce que tu entends, ce que tu imagines et ce que tu ressens. Bonne écoute!
Écoute mon tableau!
Maintenant, nous allons réécouter une seconde fois.
Si vous avez du mal à entendre, vous pouvez vous aider d'un casque.
Nous aimerions bien voir vos dessins.
Au revoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Flash Info des CE1 de l'école Rosaline Franklin.
Aujourd'hui, des infos d'Ivry, du monde des animaux et de l'espace grâce au magazine Ivry Ma Ville et au journal Le Petit Quotidien, un journal fait pour les enfants. C'est parti.
On commence avec une information locale importante.
Le 22 mars, le maire sortant Philippe Bissou a été réélu.
Les habitants ont voté lors des élections municipales.
Les citoyens ont choisi leur maire pour
diriger la ville.
Savez-vous pourquoi va-t-on à la mairie ?
On va à la mairie pour déclarer une naissance ou un décès.
On peut aussi se marier, voter ou faire des démarches.
Par exemple, payer la cantine ou demander l'autorisation de faire des travaux.
La mairie est au cœur de la vie des habitants.
On enchaîne avec une performance sportive.
Caroline Huang, licenciée à l'ESI tennis de table, est devenue championne de France à U10.
Elle l'a gagné contre les meilleures joueuses de son âge.
Bravo pour ce titre impressionnant.
Encore du sport à Ivry.
Lucie Athletics a brillé au championnat d'Île-de-France.
Les garçons du relais 4 x 200 mètres sont champions.
Les filles y sont vice-championnes.
Une belle réussite pour les équipes.
Un peu de vie de tous les jours maintenant.
Un changement que tout le monde l'a remarqué.
Lors du dernier week-end de mars, nous sommes passés à l'heure d'été.
Nous avons avancé notre horloge d'une heure.
Des journées qui paraissent plus longues. Passons aux infos du monde.
Commençons par une découverte étonnante.
Des scientifiques ont retrouvé le vomi d'un animal très ancien.
Cela permet de comprendre ce qu'il mangeait.
Même les restes peuvent raconter l'histoire.
Une aventure impressionnante maintenant.
Un marin a fait le tour du monde en voilier, mais à l'envers.
Il a navigué dans le sens opposé des routes habituelles.
Un exploit très difficile et courageux.
Une invention étonnante.
Au Royaume-Uni, un robot chat en tissu gonflable a été créé.
Il ronronne et bouge quand on s'approche de lui.
Comme un vrai chat, mais en version œuvre d'art.
Direction la Chine.
Des robots en forme humaine participent à la cueillette du thé.
Ils aident les travailleurs dans les plantations.
La technologie arrive même dans les champs.
Une bonne nouvelle pour la nature.
Des jeunes tortues ont été relâchées sur une île des Galapagos.
Il n'y en avait plus depuis longtemps.
Un retour important pour la biodiversité.
Toujours chez nos amis les animaux.
En Californie, le puma est classé en danger de disparition.
L'objectif est de protéger cette espèce. Protéger les animaux, c'est essentiel.
Une activité surprenante.
Des courses de rennes ont eu lieu en Finlande.
Les participants montent sur les traîneaux tirés par les rennes.
Une tradition originale du nord de l'Europe.
Une photo très rare maintenant.
Un photographe a capturé un éléphant debout sur ses pattes arrière.
Il se levait pour attraper la nourriture dans un arbre.
Un moment impressionnant et très rare.
Direction la Namibie.
Des lions vivent sur une plage, ce qui est très inhabituel.
Ils se nourrissent d'otaries.
Une vie sauvage vraiment étonnante.
Continuons avec une photo incroyable.
La photo de nature préférée de 86 000 votants montre un lynx.
On le voit jouer avec l'animal qu'il va manger.
Une image à la fois belle et impressionnante.
Une info sur l'environnement.
En Australie, des scientifiques étudient l'air le plus propre du monde. Cet air aide à mieux comprendre la pollution ailleurs.
Un endroit précieux pour protéger notre planète.
Un événement sportif important.
Au mois de mars ont eu lieu les Jeux paralympiques.
Des sportifs en situation de handicap ont participé.
Des performances pleines de courage.
Direction l'espace.
La première mission humaine vers la Lune depuis 53 ans est enfin partie.
C'est un grand événement pour l'exploration spatiale.
Une nouvelle page de l'histoire commence.
Des nouvelles de notre astronaute.
Sophia Deneux est dans la station spatiale internationale.
Elle doit faire 2 heures de sport par jour. Même dans l'espace, il faut rester en forme.
Et pour finir, une info étonnante.
Au Japon, il existe un concours d'empilage de boîtes. Les participants doivent aller le plus vite possible.
Une compétition originale et amusante.
Merci d'avoir écouté le flash à feu de CE1A. À très bientôt pour un nouveau journal.
Actualité
d'ici
et d'ailleurs.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse.
C'est bien sur Radio Libertaire, la radio 89.4.
Bonjour, nous sommes les petits correspondants du CM2 de l'école Kimoke. Nous allons vous parler du dernier spectacle qu'on a vu au théâtre Antoine Vitesse. Ce spectacle, Valse avec W, était un spectacle de danse contemporaine. Il y avait 2 danseuses et 3 danseurs qui s'appelaient Marguerite, Lauriane, Sam, Laurent et Marc, qui étaient aussi le chorégraphe. Lauriane a aussi dansé comme une ballerine. Courte démonstration de danse classique. Elle a aussi dansé en couple avec Sam, puis ils sont tous allés dans les gradins pour danser avec les adultes présents dans le public. Même notre maîtresse a dansé avec Marguerite. Ils ont aussi dansé du rock. Ils faisaient des climats et des positions rigolotes qui ont souvent fait rire le public. Les morceaux de musique étaient très différents.
Cela nous a permis de découvrir des nouvelles chansons et musiques. Marc faisait comme s'il choisissait les morceaux sur scène en utilisant son ordinateur posé sur une table de la scène. Mais en fait, c'est la régie qui s'occupait des enchaînements musicaux.
Chaque danse était associée à un tableau de peinture célèbre comme par exemple La Vénus de Milo, le tableau de Klimt, des tableaux de Kandinsky, de Picasso. Leurs costumes étaient parfois comme des déguisements, comme le petit chapeau rouge, un cow-boy, un monstre poilu. Et parfois, ils étaient habillés normalement. Cela était amusant.
La scène représentait une pièce d'une maison ou d'un appartement. Les décors étaient faits d'objets qui bougeaient tout seuls, de tableaux qui tombaient tout le temps. Ils déplaçaient les livres, les tableaux. À la fin, des fleurs en pot sont tombées du ciel. Le but était de faire rire le public. Marguerite appuyait tout le temps sur l'interrupteur pour éteindre la lumière. Cela plongeait la salle dans le noir et les autres danseurs lui répétaient sans arrêt « Non Marguerite, ça suffit !»
Ce troisième spectacle est notre préféré, c'était drôle, il y avait beaucoup d'interactions avec le public, beaucoup de choses inattendues comme les objets qui tombaient. Nous avons aimé les danses différentes.
Oh. nous avons pu poser des questions aux chorégraphes après le spectacle. Écoutez donc maintenant notre interview de Marc.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je suis le chorégraphe et aussi danseur, puisque tu m'as vu là danser. Et chorégraphe, c'est celui qui fabrique le spectacle. Mais par contre, on ne le fabrique pas tout seul. C'est un chemin qu'on fait ensemble pour essayer de construire le spectacle.
Pourquoi avez-vous voulu faire du théâtre ?
J'ai fait du sport pendant très longtemps, même à haut niveau, tu vois. Et puis un jour, je me suis dit, c'est super. Tu sautes loin, tu cours vite, tu lances loin. Mais notre corps, peut-être qu'il peut parler du monde autrement. Peut-être avec émotion. Quand j'avais 7 ans, il y a eu un bal à l'école. Et j'ouvrais le bal avec mon amoureuse de l'époque, tu vois, petit. Et peut-être c'est resté comme ça. Donc j'ai dansé dans plusieurs compagnies. Ça fait 20 ans, à peu près. Peut-être 25, je ne sais pas.
Est-ce que c'est la première pièce que vous faites ?
Celle-là, c'est la 5e pièce que je fais. Ça fait à peu près 10 ans que je fais des spectacles, particulièrement vers cette idée que les enfants, les plus jeunes, les moins jeunes, ils trouvent du plaisir ensemble. Et rient, s'amusent, parfois se questionnent sur des choses différentes, mais ensemble.
Combien ça vous a pris de temps pour apprendre les chorégraphies ?
C'est un spectacle qu'on a construit en 3 mois et demi. C'est beaucoup de temps et c'est pas beaucoup de temps en même temps, parce qu'il faut faire les décors, il faut s'occuper des choses qui bougent, il faut avoir la danse, et après il faut voir qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Plus le temps avant où tu dors avec, où tu réfléchis avec, et tu te dis, bah, je voudrais faire ça, ça, et puis après.
Est-ce que vous avez fait des problèmes techniques ? Par exemple, il y a des trucs qui tombaient, c'était fait exprès ou...
Oui, c'était fait exprès. C'est ce qu'on appelle un spectacle écrit. Écrit, ça veut dire qu'on est capable de refaire à chaque fois la même chose. Il y a des petits moments qui changent, c'est ce qui se passe entre vous ici et nous là. Ça, c'est une relation qui peut changer. Mais autrement, ici, là, sur le tapis blanc, c'est écrit exactement là où on veut. Les choses tombent là où on veut qu'elles tombent. Et la danse arrive à ce moment-là. Tu vois, tout est construit comme ça. Un monde qui est en train de s'écrouler petit à petit. Et nous, le seul moyen qu'on a, c'est de danser ensemble. Ça a été une des solutions qu'on a trouvées. Mais on peut en imaginer d'autres, hein, bien sûr. Hein. C'est pas la seule.
Comment vous avez fait pour faire bouger les objets ?
Pour le mouvement des objets. Alors, je vous propose une chose, éventuellement. Si jamais vous avez envie et que c'est possible, en classe, vous prenez un objet, un truc pas fragile, un objet simple, et puis tu le poses par terre. Et simplement, tu vas commencer par le pousser avec une main. Et puis, pourquoi pas avec le pied ? Peut-être même avec le genou, avec l'autre genou, avec le coude, avec l'autre coude, avec la tête, avec toutes les parties du corps. Et là, vous imaginez une classe avec des objets un peu partout et des enfants qui sont là, en train d'essayer de faire bouger les choses. Ça, c'est solution 1, tu vois. Solution 2, si vous avez envie, vous prenez une feuille blanche et vous dessinez tout ce que vous imaginez pour faire bouger ces objets. Et là, autant d'enfants, autant de solutions, hein. OK ? Il faudra se mettre d'accord, il va falloir réfléchir. Ça marche ? Ça va être ma réponse. Il va falloir chercher, réfléchir, construire.
Oui, qui faisait les dessins, les peintures ?
Pour les peintures, vous pouvez trouver tous les peintres sur le site de la compagnie, mais je vais vous en donner quelques-uns, ok ? Là, par exemple, c'était un monsieur qui s'appelait Basquiat, tu vois, qui a fait plein de peintures, c'est assez récent, c'est pas très très vieux. Ça, c'est un monsieur qui s'appelait Yves Klein. Entre autres, il faisait des tableaux tout bleus, des monochromes, et c'est très très beau. En fait, c'est beaucoup de tableaux qui me touchent, et j'avais très envie qu'ils soient là dans ce spectacle. En fait, qu'est-ce qu'on fait, nous, depuis qu'on est sur Terre, dans les cavernes ? Qu'est-ce qu'on faisait ? Eh ben, on faisait de la peinture, on dessinait, on inventait le monde qu'on voyait dehors. Et puis après, on l'a fait sur des tableaux, sur les murs, on l'a fait partout, parce que je crois que c'est une part de notre humanité, c'est la danse, la musique, les dessins.
Vos livres, c'est à vous ou vous avez emprunté ?
Alors, pareil, ici, il y a beaucoup de livres qui sont à moi, qui me plaisent beaucoup et que j'avais très envie que tous ces mondes qui sont racontés dans les livres soient là, ici, avec nous. Tu vois, comme un témoignage de toutes ces histoires. Et la plupart, ce sont les miens. Quelques-uns qu'on a empruntés, mais très, très peu.
Est-ce que c'est fait exprès, le papier peint arraché ?
Oui. Encore une fois, c'est quelque chose qui est écrit. Même si le décor évolue un peu parce que c'est un spectacle qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, parfois, il y a un bout de papier qui s'abîme, une chose. Mais c'est pas trop grave pour moi. Ça va, ça vit avec nous.
Comment avez-vous fait pour faire tomber les fleurs ?
Ok, je vais vous donner... Oh, école, ok. En classe. Si, il faut y aller, en classe, il faut le faire. Vous prenez un fil. Tu l'accroches à un objet pas fragile. Tu accroches ton fil. Tu prends un fil, tu le fais passer par-dessus une chaise, par-dessus une porte. Tu vois, tu en trouves la porte, tu fais passer par-dessus la porte. Tu demandes à une copine ou à un copain derrière de tenir le fil. Ok ? Elle tire sur la ficelle. L'objet, il va monter. Toi, tu commences à danser. Et à un moment... Elle lâche le fil, l'objet tombe.
La balle perchée là-haut.
Comment vous avez pu...
faire qu'elle puisse rester là-haut, cette balle? Bon, là, pareil, j'ai envie de vous dire, ensemble, vous discutez à des solutions qu'on pourrait imaginer. Tu vois, peut-être un fil, peut-être... une boîte, peut-être, tu vois, plein de choses comme ça où tu peux te dire ces solutions-là pourraient être possibles. Tu vois l'idée ? Rentrez bien, dessinez, dansez et olé, hein ? Ok ? Ciao !
Pour le dernier atelier, nous avons réalisé des productions d'art visuel à la manière de, en s'inspirant des tableaux des artistes qui étaient exposés pendant le spectacle. C'est intéressant d'utiliser la même technique que ces artistes, mais ça peut être difficile aussi. Mais c'est rigolo de poser le pinceau et de pouvoir peindre avec le bout du doigt.
On a découvert des artistes et leurs différentes techniques. On s'entraîne à dessiner les objets et parfois des personnages du spectacle que nous avons tirés au sort. Tabouret, tapis, pile de livres, une boîte, un balai, personne allongée, monstre poilu, une chaise, une plante ou un arbre. C'était super de pouvoir détourner ces objets. On se sent comme de vrais artistes. Certains auraient voulu avoir un autre artiste peintre comme modèle. Mais peut-être qu'on refera ce travail en classe avec la maîtresse. Au revoir.
Comment ça bouge ?
À l'école. Réunion de classe. Ok ? Demain matin. Réunion de classe. Et vous discutez comment faire bouger les choses. Vous commencez par là et vous finissez éventuellement par le reste. Donc il va falloir discuter, il va falloir se questionner, il va falloir dessiner, il va falloir bricoler. Parce que, en fait, peut-être que si je vous dis ma manière à moi de faire, après tu vas te dire, bon bah c'est comme ça. Et alors t'inventes plus. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que tous, là, vous inventiez. Vous cherchiez des solutions. C'est ça qui va faire le truc, tu vois, à un moment. C'est que toi, tu vas trouver une manière de faire qui va être absolument géniale.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Bonjour, je m'appelle Mélia.
Bonjour, moi c'est Nour.
Bonjour, moi c'est Amy.
Nous sommes en classe de 5e et nous sommes des éco-motivés du Collège Molière. L'année dernière, nous avons décidé d'interviewer les femmes pour qu'elles nous parlent d'elles et de leur métier.
Pour en dire un peu plus de la Journée des femmes, c'est une journée qui est célébrée depuis 1977 à peu près. Et cette journée représente la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle rend hommage au combat mené par des générations de femmes pour obtenir des droits fondamentaux comme les droits de vote, etc.
Bonjour, je m'appelle Floris, je suis couturière, j'ai 38 ans, je suis béninoise. J'ai travaillé dans la couture pendant 15 ans et ça fait 5 ans que je suis en France et actuellement je travaille à la pagaille. On est en chantier d'insection. Ça veut dire si tu es là, tu peux encore trouver du boulot de côté ou ils vont t'aider à faire tes stages, à poursuivre ce que tu as envie de faire.
Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?
Il faut avoir beaucoup de patience pour faire la couture. Il faut avoir beaucoup de patience et ne pas décourager. Du moment que tu as envie, il faut continuer. Il y a des difficultés, mais avec la patience, tu vas y arriver.
Quel a été votre parcours ? Quelles sont vos études pour intégrer ce métier ?
Mon parcours, je ne veux pas dire que j'ai trop fréquenté. Je suis allée à l'école, je ne sais pas ce que ça vaut ici, 3 ans. On appelle ça CE1 dans mon pays. Et après, j'ai abandonné l'école. Il y a une dame qui fait la couture, qui a des enfants, qui veulent que je m'occupe de ses enfants. Je vais déposer les enfants à l'école. Après, je reviens à l'atelier. Et c'est de là que j'ai commencé par faire la couture.
Quel est votre salaire et est-ce suffisant pour subvenir à vos besoins au quotidien ?
En ce moment-là, quand j'étais avec la dame, ce n'était pas pour gagner de salaire. Après, j'ai travaillé pour moi-même pendant 10 ans. J'avais des apprentis et des ouvriers. Mais je veux vous dire, la couture, c'est un bon métier qui paye bien. Si tu connais bien ton travail et que tu le fais bien, tu ne vas pas galérer. Et ça te donne beaucoup de temps aussi pour toi-même. Surtout quand tu travailles pour toi-même, c'est toi qui donnes les rendez-vous.
Quels sont vos horaires de travail en tant que couturière à la pagaille ?
À la pagaille, je commence à 9h30 et je finis à 17h30. Et la couture que je fais à la pagaille actuellement, ce n'est pas pour coudre des vêtements pour les clients. Je donne des formations. Par exemple, si tu as envie de faire la couture, je vais t'aider à apprendre à utiliser la machine et faire la couture. Du coup, on a des formations tous les mercredis et tous les samedis, de 14h à 17h.
Est-ce le seul métier que vous avez exercé dans votre vie ? Sinon, quels sont les autres métiers que vous avez exercés ?
Je vais dire que c'est le seul métier, mais après, je fais un peu de commerce. Je fais aussi un peu de la cuisine. Après, quand je suis venue en France, j'ai travaillé dans des écoles pour aider les enfants à manger à la cantine. La pagaille m'a aidée à faire ma formation BAFA. Et actuellement, je suis en train de chercher un stage pour pouvoir le valider. Pourquoi pas un jour retourner à l'école avec les enfants ? J'aime bien les enfants.
Pourquoi avez-vous décidé de faire couturière et surtout pourquoi couturière à la pagaille ?
De base, c'est pas la couture qui m'a amenée à la pagaille. Bon, j'ai entendu qu'ils font de la couture, mais à la pagaille, on fait un peu de tout. Tu peux rester à la cantine ou à la caisse ou au tri. C'est après que le projet de la couture est venu, vu que moi je suis couturière de base, j'ai commencé par donner des cours.
Alors, on a beaucoup entendu le mot pagaille ressortir lors de cette interview. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la pagaille, où se trouve-t-elle et surtout est-elle accessible à tout le monde ?
Et la pagaille, elle est à Ivry, juste à côté, 15 rue NS Orena. Et la pagaille, c'est une association que les gens nous donnent un peu de tout, qu'on remet en valeur et met à la boutique. Et vend à petit prix à tout le monde. Si tu es riche, tu viens, tu vas acheter. Tu es pauvre, tu viens, tu vas acheter.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était très intéressant.
Merci beaucoup à vous aussi. Ça m'a permis de faire un truc comme ça un jour dans ma vie. Je ne l'ai jamais fait, c'est la première fois. Merci beaucoup.
Tout d'abord, nous vous laissons vous présenter et nous indiquer quel est votre métier.
Moi, c'est Rose. Je suis gestionnaire d'entreprise de formation et actuellement, je suis à la pagaille recyclerie en tant qu'assistante administrative financière.
Quelles sont les qualités requises pour exercer ce métier ?
Pour être comptable, la première des choses, il faut être quelqu'un d'organisé parce qu'on travaille beaucoup avec des papiers. Qui sont des pièces justificatives, soit des achats, soit des dépenses. Donc, il faut prendre soin de ça, les classer. Il faut être rigoureux parce qu'un plus zéro sur 100, ça fait 1000. Et des écarts, c'est pas vraiment tolérable et ça crée vraiment beaucoup de difficultés. Et aussi, il faut être quelqu'un, il faut être patient. On travaille avec d'autres gens. On peut avoir des besoins, des justificatifs qui manquent. On doit clôturer les mois. On doit leur courir derrière. On ne doit pas s'énerver. Donc, il faut être très patient. En plus de ça, on travaille également avec des choses ou des pièces qui sont sensibles. Donc, il faut être discret. On ne parle pas du tout. On voit beaucoup de choses, mais on ne dit pas beaucoup de choses.
Quel a été votre parcours et quelles ont été vos études pour intégrer ce métier?
J'ai fait un bac sciences exactes dans mon pays. Ici, on appelle bac S. Après, j'ai fait 4 années d'université. Et je suis sortie diplômée en tant que gestionnaire d'entreprise et comptable.
Quel est votre salaire et est-ce suffisant pour subvenir à vos besoins au quotidien?
Et si on parlait de généralité? En général, les comptables sont payés dans une fourchette entre 1 800 et 3 000. Ça peut être plus en fonction de l'expérience de la personne. Et actuellement, si je suis à 1 800, je vais dire non, ça ne peut pas me permettre de bien vivre, de subvenir à tous mes besoins. Mais quelqu'un, un expert comptable qui est payé à 5 000 ou plus, ne peut pas dire la même chose que quelqu'un qui est payé à 1 800. Donc, une fourchette entre 1 800 et 3 000 et plus, en fonction de l'expérience de la personne.
Quels sont vos horaires de travail en tant que comptable à la pagaille?
Je travaille sur un 35 heures. Je commence à 9 heures, termine à 17 heures.
Est-ce le seul métier que vous avez exercé dans votre vie? Sinon, quels sont les autres métiers que vous avez exercés?
Un vrai parcours. Étant étudiante, je faisais beaucoup d'enquêtes. Les enquêtes sur les terrains, pour les associations, pour les ONG, pour qu'ils puissent avoir une idée ou des trucs quantitatifs pour leurs projets. Après ça, j'ai travaillé en tant que commerciale. Après, quand j'ai eu mon diplôme, mon premier job, j'étais assistante comptable sur un projet. Après, j'ai fait quelques années en tant qu'assistante administrative financière. Et j'ai quitté mon pays, je suis venue en France. Et en 2024, plus précisément en septembre, j'ai rejoint la pagaille recyclerie en tant que caissière. J'ai eu la chance. Ils ont vu le potentiel qui sont en moi. Et avec mon projet pro, qui est d'un jour être RAF, responsable administratif financier. Donc actuellement, ils m'offrent tous les leviers pour pouvoir atteindre cet objectif.
Pourquoi avez-vous décidé de faire comptable et surtout comptable à la pagaille?
En réalité, au début, je voulais être docteur. J'adore tout ce qui est biologie, mais j'adore les chiffres. Donc, finalement, la balance a fait le choix pour moi. J'adore les chiffres, j'adore porter les analyses. Le pourquoi? Quand je vois un moins quelque part, peut-être quelqu'un va dire moins un. Moi, je vais me dire pourquoi c'est moins un. Et si je peux apporter des explications qui peuvent aider l'entreprise à ce que ces résultats n'y soient plus ou bien à ce que ces résultats soient justifiés, je trouve que ça, c'est une bonne chose. En plus de ça, être comptable, tu participes à la vie de l'entreprise parce que c'est toi qui fais les enregistrements. Tu sais tout ce qui est recettes, les dépenses, tout passe par toi. Toutes les entreprises en ont besoin, les associations, et même en fonction publique, les hôpitaux. Il y a des comptables partout. Donc, c'est un métier qui embauche. En plus de ça, c'est un métier aussi qui te permet d'évoluer. d'avoir une carrière. Tu peux commencer en tant qu'assistante comptable, après comptable, après expert comptable, après responsable administratif financier, après être directrice ou avoir ton propre entreprise. Tu peux créer ton entreprise parce que tu maîtrises un peu la gestion. Donc, c'est un métier. Il y a des gens qui vont dire c'est ennuyant, mais moi, je dirais c'est un métier à multiples rebondissements parce que je ne m'ennuie pas.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne continuation à vous et bonne journée.
Radio Libertaire 89.4, et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Cartable. Reportage dans mon cartable.
École Ivry.
École Libris,
les livres
qu'il faut
lire.
Chers auditeurs,
chères auditrices,
je m'appelle Chaco.
Et je m'appelle Salma.
Nous sommes avec notre classe, la 6e une du collège Romain Roland à Ivry-sur-Seine.
Nous avons la chance de nous trouver dans les studios d'enregistrement de Radio Cartable pour vous parler d'un des romans du prix qu'il a lu de cette année 2025-2026 qui s'intitule « La lettre de Sacha » de Nathalie Bernard aux éditions de Thierry Magnier.
Dans cette émission, nous pourrons tout d'abord écouter nos camarades pour vous faire un petit résumé du livre. Puis, ils vous donneront leur avis sur leur lecture. Et enfin, nous vous lirons quelques extraits qui nous ont plu.
Accueillons maintenant, sans plus tarder, Numenio et Ali pour le résumé de l'œuvre de Nathalie Bernard, La lettre de Sacha.
C'est l'histoire de Sacha, un jeune réfugié, arrivé en France pour fuir la guerre. Il a quitté son pays avec sa mère, son chat et son géranium.
Au collège, dans sa classe, il rencontre une écrivaine et reste persuadé que celle-ci possède un pouvoir magique grâce à ses mots.
Sacha décide alors, avec l'aide de sa professeure documentaliste, de lui écrire une lettre.
Pour lui demander d'utiliser sa magie afin d'arrêter les fous de détruire son pays et de protéger son père qui est resté là-bas.
Et maintenant, Mariam, Marel et Lina vont vous faire une part de la critique littéraire de la classe.
Mariam,
j'ai aimé l'idée de la magie. Sacha est très mignon et très sérieux quand il pense que l'écrivaine a des pouvoirs magiques. Il croit que si elle écrit les bons mots, elle peut arrêter les bombes et protéger son pays. Ça montre que les histoires sont un trésor quand on est triste. J'ai aussi aimé le mystère du pays. On ne sait pas d'où vient Sacha. Ça veut dire que ce livre parle de tous les enfants du monde qui vivent la guerre.
Marilo,
j'ai aimé l'idée que l'espoir fait vivre. Sacha pense qu'il pourra sauver son père et son pays en persuadant cette écrivaine de s'intéresser à son histoire. C'est vraiment une belle leçon de vie. Malgré la guerre, il y a de la joie et de l'espoir.
Léna,
j'ai aimé que le narrateur soit un petit garçon de mon âge qui raconte son histoire. Ça m'a permis de mieux m'identifier au personnage.
Marilo,
j'ai aimé que le livre soit court et j'ai trouvé l'histoire de Sacha très émouvante.
Léna,
j'ai aimé que le géranium et avec lui l'innocence soient sauvés.
Mariam,
j'ai trouvé intéressant que ce soit un sujet, malheureusement, d'actualité. J'ai trouvé que les personnages étaient très attachants. Même le vieux monsieur Albert qui les accueille m'a aimé. Si mon pays était en guerre, je serais heureuse que quelqu'un comme lui m'accueille.
Léna,
j'ai beaucoup aimé la façon d'écrire de Sacha. C'est un peu maladroit parce qu'il vient d'un autre pays et ça rend le texte poétique.
En conclusion, on a tout aimé.
Merci beaucoup pour cette belle critique.
École Libris.
Pour finir, Raphaël, Liam, Julien et Kevin vous proposent une lecture à plusieurs voix d'extraits que nous vous avons sélectionnés.
J'ai choisi cet extrait du chapitre 4 de la lettre de Sacha de Nathalie Bernard, car on se met bien à la place de Sacha et on ressent bien ses émotions. On comprend aussi bien ce qu'il se passe pendant la guerre. Je laisse la parole à Kevin, Raphaël, Julien et Liam pour la lecture de ce passage.
On est partis tous les trois à pied dans la nuit.
Dehors, le ciel n'était pas vraiment noir.
De vilaines fleurs de lumière exposées par à coup et laissées derrière elles des nuages de cendre et une odeur de béton brûlé.
Les gens marchaient dans la même direction que nous, silencieux et précis. J'avais l'impression d'avoir été propulsé dans un jeu vidéo.
Sauf que là, on pouvait mourir en vrai.
Quand les bombardements cessaient, on entendait des cris, des sirènes, des bruits de moteurs, des alarmes, des chars qui hurlaient à la mort.
Et puis, des nouvelles explosions. Mon cœur battait trop vite dans ma poitrine, trop fort dans mes oreilles.
J'avais l'impression qu'il voulait sortir de mon corps pour aller se cacher dans le trou du caniveau.
J'ai choisi cet extrait du chapitre 8 pour l'émotion que Sacha ressent et que cela nous a procuré.
Trois ou quatre trains plus tard, c'était comme si la carte du monde s'était effacée, remplacée par un réseau métallique de rails, de fils et d'électricité.
J'avais aussi perdu la notion du temps.
Je ne savais plus quel jour on était.
À ce stade, je voulais plus qu'une chose, dormir dans un lit avec des draps frais. J'imaginais ma tête posée sur un oreiller tout doux et moelleux, même si les genoux de maman, c'était déjà pas si molle.
Quand maman m'a fait sortir du wagon, m'a entraîné sur le quai et m'a murmuré « Ça y est, on est arrivé !» Franchement, j'y croyais plus vraiment.
Pourtant, quelqu'un nous attendait.
Un vieil homme que j'avais jamais vu de ma vie. Maman m'a dit de dire « Bonjour Albert, ça a été mes premiers mots dans votre langue. »
Et je savais pas ce que ça voulait dire.
Je me suis quand même appliqué. Albert m'a tendu une grande main tout sèche et il a souri triste
en me répondant « Bonjour Sacha. »
J'ai choisi l'extrait du chapitre 9 car on se rend compte qu'il a pris du temps à s'intégrer dans son nouveau pays et cela m'a ému.
La première nuit, j'ai entendu les bombes.
J'ai crié. Maman est venue s'allonger près de moi.
Quand je me suis réveillée le matin, elle n'était plus là.
Moi, je ne savais plus où j'étais.
Et puis, j'ai entendu les oiseaux chanter. J'ai senti la douceur des draps sur ma peau et le corps tout chaud de Minouché lové contre mon flanc.
Je l'ai caressé un peu. Je me suis levée et je suis allée voir le géranium.
L'eau lui avait un peu rendu ses couleurs.
J'ai retrouvé maman dans la cuisine devant une tasse de café. Je lui ai demandé si elle avait des nouvelles de papa.
Il va bien, ne t'inquiète pas.
Merci à la médiathèque d'Ivry de nous avoir permis de découvrir l'histoire de Sacha. Et voilà, c'est fini pour nous, c'est l'heure de rendre le micro.
Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés sur la station 89.4 de Radio Cartable. Et nous vous souhaitons une bonne lecture de la lettre de Sacha de Nathalie Bernard. Au revoir.
École Libris,
les livres
qu'il faut
lire.
Bonjour, nous sommes une classe de CM2 de l'école Anne-Sylvestre à Ivry-sur-Seine et nous avons travaillé toute l'année autour d'un prix littéraire, le prix Qui l'a lu, qui est organisé grâce à la médiathèque d'Ivry-sur-Seine et c'est un projet en partenariat entre des écoles et des collèges. Et pour Radio Cartable, les élèves ont eu envie d'écrire un poème ou un rap ou une chanson autour des livres qu'ils avaient lus. On espère que les créations des élèves vous plairont. Bonne écoute.
Chère mère, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Je t'avoue que je suis en colère, mais heureux de t'avoir retrouvée.
Il s'est passé plein de choses pendant que tu étais partie, mais je n'ai pas changé d'avis sur ton mari.
Il m'a fait le silence et a tapé mon frère. Conclusion, je déteste mon père.
Je préfère qu'il soit en prison, qu'il se balade dans la maison.
S'il y va bien, il fait de la couture et ça le fait penser à rien.
Pourquoi tu ne disais rien? Tu ne m'as même pas donné le bien.
Chère mère, j'espère qu'on se reverra.
Je te souhaite beaucoup de bonheur. Tesnim
m'a dit.
Il a fui son pays à l'âge de 12 ans. Jamais il n'aurait cru que la vie le mènerait à ce moment. Il s'appelle Sacha, il vit avec sa mère. Son père est parti à la guerre et puis avec sa mère, ils entendront des bombes depuis leur maison. Ils s'enfuiront ensuite, loin de leur famille, loin de leurs amis. Il a laissé son père à la guerre, puis ont pris le train. 3 ou 4 trains plus tard, ils étaient arrivés. On leur a prêté un appartement sans eau, ni meubles, ni électricité. Sacha faisait encore des cauchemars des bombes, mais finalement, tout s'est bien passé. Mogadoussou.
Je suis en colère. Sacha s'enfuit de la guerre avec son chat et sa mère. Heureusement qu'il a pris le train. Sinon, il sera plus là, hein. Son bâtiment s'écroule. C'est toute sa vie qui coule. Ça me saoule.
Je suis en colère. J'en ai marre de la guerre. Je suis tombé par terre avec ma mère. Et celui qui nous a tendu la main s'appelle Apert.
J'ai perdu mon père. Depuis ce temps-là, je suis par terre. J'ai lâché l'affaire. J'ai vécu la guerre. C'était la galère. Je suis en colère. Sacha s'enfuit de la guerre avec son chat et sa mère. Heureusement qu'il a pris le train. Sinon, il ne serait pas là.
Son bâtiment s'écroule. C'est toute sa vie qui coule. Ça me saoule.
Je suis en colère. J'en ai marre de la guerre. Je suis tombé par terre avec ma mère. Et celui qui nous a tendu la main s'appelle Albert. Je suis en colère.
Ilyes, Camille,
Saad,
Alexis.
On va vous raconter une histoire d'un enfant qui jouait tranquillement. En un claquement de doigts, ils arrivent, ça fait boum. Sa mère vient au courant et dit: Faut y aller. Mais ce jeune garçon ne comprend rien. Au fur et à mesure, il comprit. Ils vont dans un train pendant quelques jours. Après de longues attentes, ils arrivent à Paris. En sortant du train, ils voient un monsieur. Il ne connaît pas sa langue. Le monsieur dit: bonjour, je m'appelle Albert. On va chez lui, même on y vit. Maintenant tout s'est arrêté. Je vis bien au collège. J'ai des proches gentils. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et c'est parti pour cette deuxième chanson. On y go!
Salut, moi c'est Violette, j'aime la musique et le skate. Ma tante s'appelle Hortense, je sais que ça finit en anse comme la chance. Elle est trisomique, mais plutôt comique. Elle a appris un nouveau mot, rikiki. Une petite introduction pour la chanson. Elle m'a promis que son nouvel ami s'appellera rikiki. Aujourd'hui c'est le jour J.
Maintenant, pas de plaisanterie.
Quelqu'un s'est introduit dans sa vie. Rikiki, qui s'appelle Rikiki.
Rikiki.
Tapez avec nous des mains. C'est la fin.
Je m'appelle Assine.
Je m'appelle Roxane.
Cartable, la radio des écoles d'Ivry.
Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand. Et avec à la technique, bien sûr, Flo Descailloux, qui vous réserve quelques surprises de sa création personnelle et de son interprétation de l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Géraldine Doutriot pour Le cas Marguerite Audoux. C'est un livre très précieux sur l'itinéraire, le parcours d'écriture de Marguerite Audoux. Ça vient de paraître aux éditions Des Femmes, Antoinette Fouque. Géraldine Doutriot, bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, je trouve que c'est un livre très salutaire pour cette femme qui est un peu oubliée, femme écrivain.
Merci.
C'est très émouvant aussi. C'est très émouvant parce que c'est quelqu'un, c'est l'art du peu. C'est Marguerite Audoux pour moi, d'ailleurs, qui a obtenu, je crois, le prix Femina en 1910.
Tout à fait.
Pour Marie-Claire. Mmh. Ah, ça vous rappelle un célèbre magazine qui tient son nom de ce fameux roman Marie-Claire de j'allais dire Géraldine Doutriot. Vous voyez, je vous
J'aimerais
confonds.
Bien, mais non.
Je vous confonds. Donc, de Marguerite Audoux. Et il y a quelque chose de très émouvant dans votre livre, dans cet accompagnement, j'allais dire, de cette vie, Géraldine Doutriot. Alors, avec un style, c'est pas vraiment une biographie, c'est un récit. Comment vous définisseriez-vous votre ouvrage, puisque
c'est une biographie, c'est un récit biographique. Alors c'est vrai qu'il y a des moments un peu romancés, un peu imaginés. La vie de Marguerite Audoux, il y a quand même pas mal d'éléments sur sa vie, mais pas tant que ça non plus. Je pense notamment à sa correspondance, qui normalement est une mine d'informations. Or, la correspondance privée de Marguerite Audoux, elle existe. D'ailleurs, on peut la trouver sur Internet. Mais elle n'est pas riche en informations sur son art littéraire, sur comment elle écrivait. C'était une femme assez discrète. Aussi discrète que son style, finalement, que vous qualifiez tout à l'heure de l'art du peu. Oui, elle avait un style assez minimaliste et ça se retrouve aussi dans sa manière de médiatiser sa vie. C'était une femme discrète.
Ouais, l'arte povera. Vous dites, cette biographie comporte des éléments de fiction pour combler certaines zones d'ombre que contient encore la vie de Marguerite Audoux. Alors comment vous avez, je pense que c'est en allant en bibliothèque, moi je suppose, quel a été le déclic de ce livre, de cette aventure? Parce qu'il fallait le faire quand même, aller ressusciter, Marguerite Audoux, donc qui est née, pour nos auditeurs, le 7 juillet 1860, et qui est décédée le 31 janvier 1937. Donc elle est née dans le Cher, je crois, à Sancoin.
Tout à fait.
Et elle est décédée à Saint-Raphaël.
Dans le sud.
Dans le sud.
Au bord de la mer.
Au bord de la mer. Mais quel a été un peu la lecture de Marie-Claire?
Alors le déclic, clairement, ça a été la rencontre avec une prose qui est celle de Marie-Claire. Ce récit autobiographique de Marguerite Audoux, un récit d'enfance qu'elle a écrit. C'est son premier, vous l'avez dit, il a été publié en 1910. Il a tout de suite fait un tabac. Et moi, je ne connaissais pas Marguerite Audoux. Pourtant, j'ai fait des études de lettres. Je suis prof de français. J'aime les pépites. Et ben, je ne connaissais pas Marguerite Audoux. Et pourtant, je suis une grande amatrice des anthologies.
Oui.
La Guerre des Michards, Henri Mitterrand, pour ceux de ma génération. Et jamais, pourtant ces anthologies que j'aime, il n'y avait d'extrait de Marie-Claire, de Marguerite Audoux. Et moi, je l'ai rencontrée donc dans une librairie. Je cherchais un livre pour un ami, pour son anniversaire. Je sais qu'il était justement amateur de pépites. Je vois donc, c'est publié dans la collection Les Cahiers Rouges de Grasset.
Oui, bonne collection.
Oui, vraiment. Et donc je regarde ce livre. Sur la couverture, vous ne pouvez pas le voir, mais on voit les yeux, ces très beaux yeux qui pendent un peu de Marguerite Audoux, des yeux un peu tristes, un peu mélancoliques, des yeux clairs.
Un peu fataliste aussi.
Un peu fataliste, c'est vrai, un peu résigné. Et j'ouvre le livre et je tombe dedans, comme Octave Mirbeau. Enfin, je ne suis pas Octave Mirbeau, je n'oserais pas me